C'est quand il y a finalement un obstacle qu'on va se dire bah, est-ce que finalement ça vaut le coup de continuer? Est-ce que finalement j'ai envie de continuer? Enfin, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Hein, donc, mais oui, c'est des métiers où il y a des obstacles tout le temps parce que la vie n'est pas linéaire et tant mieux.
Bienvenue dans le podcast Altitude, un podcast qui vous montre que rien n'est écrit à l'avance, qui vous fait prendre de la hauteur, qui vous montre que la liberté de changer de voie existe et qu'on a le droit de sortir des sentiers battus.
Mais voilà, je pense que c'est des questionnements qui sont légitimes et qu'il faut se poser aussi. Parce qu'on ne peut pas savoir qu'on est bien là où on est si on ne s'est pas interrogé sur ce qu'il y avait autour. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre et de dire si je serai avocat toute ma vie, si je ferai du droit toute ma vie. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien.
Je m'appelle Louis, je suis étudiant en master de journalisme à l'Université catholique de Lille. Et pour ce 5e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ondine, qui est une ancienne étudiante de l'université. Elle était étudiante à la faculté de droit. Elle y a fait sa licence ainsi que son master 1 en droit privé et droit des affaires. Aujourd'hui, elle est avocate dans un grand cabinet lillois et elle est avec nous pour ce nouvel épisode d'Altitude. Bonjour Ondine.
Bonjour Louis.
Qu'est-ce que ça te fait de revenir à la Cato, même si tu y revenais régulièrement, on en parlera plus tard, mais un peu de nostalgie peut-être?
Ah, toujours nostalgique de revenir à boulevard Vauban et dans le quartier de la Cato, bien sûr. Il y a plein de souvenirs qui reviennent, des bonnes années, des belles années.
Avant ton arrivée à la fac de droit, c'était quoi ton projet professionnel? Est-ce que tu te destinais déjà à devenir avocate ou pas?
Non, pas du tout. Moi, je suis arrivée dans le droit un peu, alors je vais pas dire par hasard, mais à défaut d'autres choix quelque part. Moi, j'étais une élève, une bonne élève, moyenne bonne dans le cadre de mes études au lycée. Et j'étais pas passionnée par les mathématiques, ni par la science, ni par l'histoire. Et du coup, la voie du droit est apparue un petit peu la voie de découverte, en fait, de quelque chose de nouveau, d'intéressant. Donc, je suis vraiment arrivée par intérêt et pour une matière que je ne connaissais pas, en fait.
Tout simplement, donc tu t'es inscrit à la fac, tu t'es dit, allez, pourquoi pas, on va essayer.
On va essayer, on va voir. Et puis avec l'avantage aussi des études de droit, et ce qui s'est démontré chez pas mal de mes petits camarades, c'est cette faculté de pouvoir évoluer, bifurquer en cours de route, parce que c'est quand même des études qui ouvrent beaucoup de portes, même pour ceux qui n'envisagent pas forcément de rester dans le droit par la suite.
Et donc tu as suivi ton chemin finalement dans ce domaine qui est le droit. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans cette matière en règle générale?
J'ai très vite apprécié ça, plus certains cours que d'autres. Je pense que tout le monde trouve assez vite sa voie aussi.
Tu as des exemples de cours?
Voilà, moi je sais que par exemple le droit pénal, c'était très vite je me suis dit c'est pas mon truc. Alors les matières étaient intéressantes, les professeurs intéressants, c'est pas le sujet. Mais voilà, il y a une appétence pour une matière du droit plus ou moins forte en fonction des domaines. Je me souviens également de cours extrêmement intéressants en droit administratif avec Monsieur Turc à l'époque qui nous donnait cours.
Wow, que j'ai très bien connu.
Ouais, voilà, que beaucoup d'étudiants ont connu. Je me souviens de cours hyper intéressants d'un personnage qui nous apprenait énormément de choses. Mais voilà, après, une appétence pour la matière en tant que telle, le droit public, par exemple, qui n'était pas la mienne, quoi. Donc je pense que c'est aussi l'avantage d'avoir un panel, un cursus un peu commun au départ, c'est de pouvoir assez vite aussi se faire une idée des matières avec lesquelles on se sent le plus à l'aise et celles avec lesquelles voilà, on se rend assez vite compte que c'est pas notre façon de fonctionner, le raisonnement juridique n'est pas toujours le même entre le droit privé et le droit administratif. Donc c'est bien d'avoir ce cursus commun au début et de ne pas être trop arrêté finalement dès le début de ses études sur une matière de prédilection.
Au niveau du travail, comment tu as trouvé la licence en telle qu'elle? Au niveau de la quantité, au niveau de l'assiduité
Alors ça remonte un petit peu, j'ai pas un souvenir d'une charge de travail excessive, j'ai un souvenir d'un suivi régulier, rigoureux, qui nécessitait du travail, hein, pas se mentir, c'est des études, il y a un diplôme à la clé, voilà, il faut travailler, ça on va pas se mentir. Après je me souviens, ce qui m'a marqué notamment, c'est l'alternance assez vite entre les cours magistraux et les cours de TD, qui sont quand même très différents. Puis des choses plus pratiques qui se développent un peu plus aussi avec le cursus. Hein. Plus on évolue, plus il y a des expériences pratiques, ce qui est aussi l'intérêt d'un...
Nécessaire pour bien assimiler les cours théoriques.
Exactement, pour mettre en pratique, puisque à l'issue, on a son diplôme, c'est bien, mais on rentre sur le marché du travail. Et sur le marché du travail, on ne demande pas forcément la même chose qu'un professeur va demander à ses étudiants, ce qui est tout à fait normal. Mais donc moi, je me souviens qu'assez tôt, assez vite finalement dans le cursus et dans le parcours, on a été confronté à des exemples pratiques, à des TD, à apprendre à lire des fiches d'arrêt, puis ensuite des cas pratiques, et puis voilà, d'avoir une évolution théorique et pratique aussi.
Entre ta licence et le début de ton master, est-ce qu'il y a un moment où tu as douté ? Ou est-ce que tu t'es dit, finalement, peut-être que je pourrais faire autre chose ? Ou est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Est-ce que tu t'es posé ces questions-là, dans cette transition de fin de licence 3 et début de master ?
Oui, je me suis posé, mais comme beaucoup, je pense. Alors, pas tellement parce que je ne me sentais pas à ma place, parce que j'ai toujours été bien, finalement, en droit. Ça m'a toujours plu. Je me projetais de plus en plus au fur et à mesure des années. Je pense que ces questions-là, je me les suis posées parce qu'en effet, il y en a d'autres. Il y a des copains, des copines, enfin voilà, qui bifurquent, qui se disent j'y arrive pas, c'est pas mon truc, ça me plaît pas. Et donc forcément, on se pose des questions aussi. On se dit si ça lui plaît pas, pourquoi ça me plaît à moi. Enfin voilà, donc on peut s'interroger. On voit d'autres étudiants qui rejoignent des écoles de commerce, qui rejoignent des études complètement différentes. Donc ça interpelle aussi. Et c'est aussi normal, je pense, à un moment donné, de s'interroger sur ce qui peut être fait d'autre ou sur les autres voies qui peuvent découler de cette base générale, on va dire, en droit. Donc je me suis posé la question plutôt dans cette optique-là, hein, à ce moment où en effet d'autres bifurquaient et où dans le cursus il y a aussi des étapes, hein, c'est-à-dire c'est plutôt en fin de licence en effet où on peut raccrocher d'autres cursus. Donc je me suis posé la question, j'ai vite trouvé la réponse, j'étais bien là où j'étais, mais oui, je pense que c'est normal, naturel et même bénéfique de s'interroger, enfin il faut s'interroger.
Donc ça veut dire qu'on n'est pas finalement obligé de suivre une voie qui est toute tracée. On a le droit de changer d'orientation au sein d'une même matière.
Évidemment, heureusement d'ailleurs, que ce soit dans le cursus, alors qu'il est peut-être un peu plus scolaire, donc c'est peut-être moins évident, faut arriver à joindre, quand même avoir une cohérence, on va dire, dans son parcours, mais c'est vrai aussi dans la vie professionnelle. Enfin, moi, j'échange avec beaucoup de confrères, la plupart comme moi, d'ailleurs, je suis un exemple vivant, vous diront qu'ils ont une formation théorique de base et qu'aujourd'hui, ils font complètement autre chose, alors qu'ils sont avocats et qu'ils voulaient être avocats et qu'ils voulaient faire du droit. Moi, j'ai commencé en propriété intellectuelle et aujourd'hui, je fais des beaux commerciaux. Donc, c'est pas le même métier. Et quelque part, tant mieux. Je regrette pas du tout d'avoir commencé dans une autre voie. Je me dis, voilà, je me suis enrichie. J'ai rajouté une corde à mon arc. Finalement, j'ai bifurqué. C'est enrichissant. Et c'est à la fois dans le cursus des études, il faut s'enrichir de ça, je pense, de ces multiples expériences. Et il faut toujours s'interroger, en fait. C'est pas propre aux études.
Dans le droit, il y a une multitude de branches, comme le droit privé, le droit public, le droit pénal ou encore administratif, comme tu le disais. Laquelle était ta préférée et est-ce qu'aujourd'hui finalement tu la pratiques? Parce que tu disais que tu es parti en propriété intellectuelle, finalement tu fais des beaux commerciaux aujourd'hui, mais durant tes études c'était quoi ta matière préférée?
C'était pas le droit commercial. Je me souviens d'ailleurs avoir eu 6 à l'examen sur les beaux commerciaux. Donc comme
ça,
quoi.
Ça picote. Ah bah comme quoi tout est possible.
Comme quoi tout est possible, faut jamais désespérer. La matière préférée, j'arriverai pas à en sortir une du lot. J'ai très vite eu de l'appétence, mais c'était quand même dans le parcours, arrivé à la deuxième ou troisième année, je me souviens plus exactement, pour la propriété intellectuelle. Je me souviens que j'ai apprécié l'aspect un peu technique, un peu pratique, un peu objet du quotidien. Voilà, j'avais une appétence pour cette matière en particulier. Mais j'ai pas non plus flashé sur une matière. Après, ce qui est important, à mon sens, c'est de s'intéresser aussi aux matières qui sont a priori les moins vendeuses. Et je pense notamment à toutes les matières de base, le droit des biens, j'en parlais avec un ami notaire il n'y a pas longtemps, le droit des biens qui est un peu le cours rébarbatif quand on est étudiant en droit, c'est aujourd'hui la base de quasiment toutes les professions notariales. Et le droit de la responsabilité, le droit des contrats, le droit des obligations, c'est la base du métier de tout juriste. C'est-à-dire, quelle que soit la voie qu'on prend, il y a des matières comme ça qui transcendent un petit peu tous les domaines. Donc je pense qu'il faut, même si ce n'est pas forcément les plus accueillantes parce qu'elles sont complexes, parce qu'elles sont techniques, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il ne faut pas s'en désintéresser.
Quand tu as fini ton master, du coup, tu as décidé de passer le concours du barreau, qui s'appelle le concours c'est le CRFPA, ouais, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'éclairer sur le parcours d'un élève avocat? Comment ça se passe? Est-ce que tu as fait un an de préparation avant de passer le concours pour rentrer dans l'école, ou est-ce que tu l'as passé d'emblée, dès le master?
Alors, moi, le concours, il y a plein de préparations, il y a plein de prépas, il y en a des très bonnes. Il y a autant de bonnes préparations que de parcours, je pense. Je l'ai beaucoup préparé, mais je l'ai préparé seule, parce que j'étais en stage les mois qui ont précédé. Je me suis arrêtée pendant 2 mois, juillet-août, pour pour bosser seul, mais pas en partant de zéro, en récupérant des documents d'amis qui avaient déjà préparé avant moi. Enfin voilà, donc j'ai glané un petit peu toutes ces informations-là. Je les préparais seule en me disant, parce que justement, je me prédestinais pas forcément à la profession d'avocat. J'étais un peu toujours dans cette voie de me dire, bah, j'aime le droit, je découvre les matières, j'y suis bien. Et puis à un moment, on est pris dans le flot de l'évolution, ce qu'on disait. Alors, il faut regarder un petit peu à côté ce qui se passe. Mais moi, j'ai passé le concours en me disant, bah, quoi qu'il arrive, ce sera un plus. Même si je ne me destine pas à être avocat, même si finalement j'ai envie d'être juriste, je me suis dit, bah, ce concours, je l'aurai. C'est le moment de le passer parce qu'on est à la fin de ses études. Il ne faut pas décrocher non plus. Le droit, c'est une matière qui évolue vite, donc il ne faut pas décrocher non plus. Il y a un bon moment pour passer ce genre de concours et souvent, c'est à l'issue du cursus universitaire. Et donc, je l'ai passé un peu en me disant, bah, si je l'ai, c'est très bien. Si je ne l'ai pas, bah, c'était peut-être un signe du destin. C'était un peu l'idée. Et en fait, c'est vrai que je l'ai eu et que du coup, j'ai continué ensuite en fait la formation.
Et si tu l'avais pas, ouais, c'était pas grave, tu pouvais quand même te raccrocher à quelque chose d'autre.
Voilà, c'est toujours une déception personnelle quand on tente un concours de le rater, et malheureusement ça arrive, hein. Il y a des élèves qui le tentent et qui ne l'ont jamais, ou ce concours-là ou d'autres d'ailleurs, donc c'est évidemment, je pense, toujours une déception personnelle, mais c'est pas pour autant que d'autres voies sont fermées ou que tout s'arrête en fait si on n'a pas un concours, quoi. Ça reste un concours d'entrée pour une profession, et des professions du droit, il y en a énormément.
Et quand t'es en école d'avocat, ça se découpe un peu comment? Combien de temps ça dure? Il me semble que c'est 18 mois.
Alors c'est à peu près 18 mois, en vérité c'est un petit peu plus que ça. En fait c'est 18 mois de formation, mais avec les périodes de préparation, de concours, d'examen, en gros il faut compter 2 ans à peu près, entre l'entrée et la sortie de l'école. Il y a 3 périodes de 6 mois, en effet, qui sont assez clairement identifiées. Il y a une première période de 6 mois qui est un stage qu'on appelle le projet personnel individuel, qui peut se faire à peu près partout, sauf en cabinet d'avocat. ce qui peut paraître assez étonnant, mais ce qui, avec le recul, je trouve, est assez intéressant, et ce qu'on voit sur les CV notamment, et des étudiants ou des jeunes avocats qui postulent au sein du cabinet pour intégrer notre cabinet, c'est que ça permet d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir des perspectives auxquelles on ne pense pas forcément quand on est figé sur un objectif qui est d'avoir le concours, d'être avocat dans tel ou tel domaine. Donc c'est vrai que d'avoir intégré à la préparation initiale cette possibilité de faire pendant 6 mois, alors quand je dis quelque chose qui peut être à peu près tout, il faut que ce soit quand même cohérent et que ça soit en lien, mais ça a permis aussi à certains de se rendre compte que des avocats interviennent auprès des collectivités, auprès des associations, auprès des entreprises, auprès des chambres de commerce, qu'il y a aussi, et ça permet à certains de voir comment fonctionne la justice, qu'on peut faire ce stage en juridiction, donc ça permet de voir comment ça fonctionne. Moi je me souviens que, alors je fais pas du tout le droit pénal, je te le disais tout à l'heure, j'avais apprécié, pendant mon PPI, je suis allée quelques temps en juridiction où j'ai assisté à un procès d'assises, aux délibérations des jurés, sur un point de vue personnel hyper enrichissant. Et puis ça permet d'ouvrir en effet le champ des possibles. Donc ça, cette première période de 6 mois de découverte ou d'ouverture un petit peu d'esprit, j'ai envie de dire.
Ensuite, donc ça veut dire que si ouais. Je pars faire du coup ranger en Australie, ça rentre pas dans le cadre.
Ça rentre pas dans le cadre, sauf parce qu'il y a un intérêt juridique ou de découverte du monde judiciaire local, pourquoi pas. Ou pour aider une association éventuellement, ça peut rentrer dans le cadre s'il y a un projet professionnel, quoi, comme son nom l'indique. Donc il faut quand même qu'il y ait un projet qui tienne la route derrière, quoi.
Et donc la suite,
hein. Donc la suite, ensuite il y a une période de 6 mois de stage en cabinet. En cabinet d'avocat, donc assez classique, qui vous permet de mettre un peu de découvrir au quotidien le métier d'avocat. Donc c'est un stage, tout ce qui est plus classique en cabinet d'avocat. Et ensuite, il y a une période de 6 mois aussi de formation. Alors c'est pas toujours dans cet ordre-là, parce que pour certaines promotions, ils vont faire leur stage à la fin, la période à l'école entre les deux. Enfin voilà, ça peut varier soit en fonction des effectifs, soit en fonction des années, enfin, dans la chronologie. Mais ensuite, il y a également 6 mois de formation à l'école à viser essentiellement pratiques, qui sont pas inintéressantes du tout, mais que certains critiquent un peu parce que, je vais être assez transparente, parce qu'en fait ça reste une formation à l'école très générale, mais ce qui a aussi son intérêt, mais ce qui fait que des élèves avocats qui sont depuis des années certains d'être avocats en droit des affaires, et spécifiquement encore en droit des sociétés, qui sont amenés à quasiment pas porter la robe parce qu'ils veulent faire du conseil fiscal ou du conseil en droit des sociétés, vont se retrouver dans cette formation-là là aussi à devoir faire des exercices de plaidoirie, devoir rebosser le droit de la famille, etc. Donc ça peut avoir son avantage, notamment pour les élèves avocats qui ne sont pas totalement déterminés et décidés sur leur vocation prochaine, mais ça peut aussi apparaître comme un frein ou comme une formation moins adaptée, on va dire, pour des élèves avocats qui sont déjà très décidés, qui ont construit tout un parcours avec un objectif et bon, ils se sentent un peu obligés de passer par cette formation-là.
Si tu devais résumer le droit aujourd'hui, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la matière, qui est extrêmement large, je te le conseille, je te l'accorde, mais comment tu définirais cette matière ?
Bah, une définition du droit, alors il y a une définition qui est très juridique, une définition de juriste, hein, c'est l'ensemble des règles qui régissent les relations.
Sociale, professionnelle et familiale.
Quelle qu'elle soit, exactement. Et c'est vrai que, en fait, le droit en soi, il ne faut pas non plus perdre ça de vue, ce ne sont que des règles. Ce sont que des règles qui sont classées dans des codes en fonction de domaines particuliers et qui ont vocation à régir la vie en société. Je crois bien que ça doit être la définition à peu près officielle. Mais en fait, je pense que cette question est intéressante parce que ce ne sont que des règles, en fait, le droit. Et les études de droit, c'est apprendre à apprivoiser ces règles, à jouer avec, à construire avec, à défendre avec. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup, on le disait tout à l'heure, il y en a énormément, on ne peut pas être spécialiste en tout, donc il faut choisir des domaines, mais il y a énormément de règles, et puis elles sont construites, écrites pour certaines depuis extrêmement longtemps. Elles sont construites avec un vocabulaire, avec un langage qui est aussi très particulier. Et donc, bah, les études de droit, c'est rien d'autre que des études. Enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais il faut parfois prendre un peu de la hauteur sur les sujets que d'apprendre à gérer, à anticiper, à jouer avec ces règles-là, à les traiter, à les travailler, quoi. Et c'est notre métier, en fait, au quotidien aussi, en tant qu'avocat ou juge ou les notaires. Toutes les professions juridiques et judiciaires, elles ne font que traiter ces règles-là, en fait.
Est-ce que cette matière qui est très carrée, très précise, qui est un ensemble de règles finalement comme tu l'as résumé, ça t'a permis de te construire dans ta vie étudiante ? Est-ce que ça t'a donné un cadre ou ça t'a permis de conforter des choix ou ce genre de choses ?
Je pense que, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai eu cette réflexion-là peut-être plus tard en devenant avocat parce que pour le coup, il y a une déontologie. Voilà. Et moi, cette notion-là de vie personnel et d'impact dans la vie personnelle, je la rattache plus à la déontologie du métier d'avocat qui, pour le coup, transcende les moments où on est en train de travailler, les moments de loisirs, etc., plutôt que dans le cadre des études où, non, pour moi, c'était assez... les choses étaient assez séparées.
Il y a une période qui fait réellement peur à beaucoup d'étudiants, c'est cette phase entre la fin des études et le début de la vie professionnelle. Toi, comment tu l'as vécu ?
Alors, moi, je l'ai vécu un peu en douceur. Je pense que c'est le cas quand même de la plupart de... Enfin, je ne vais pas parler pour eux, mais de la plupart de mes confrères, dans le sens où quand vous devenez avocat, vous avez cette formation, on en parlait tout à l'heure, à l'ICSAD, bah, qui vous aide, qui vous prépare, qui vous prend un petit peu par la main. Donc moi, je l'ai bien vécu. Après, c'est toujours un peu brutal, parce qu'on se rend compte assez vite que ce qu'on exigeait de nous en tant qu'étudiants, et ce qu'on exige de nous dans le monde du travail, et ce qu'on exige de nous en tant que professionnels attitrés par rapport à stagiaires au préalable, c'est pas du tout la même chose. Et puis surtout, le monde du travail, il faut pas oublier que dans la plupart de nos professions, alors je parle beaucoup des avocats, mais je parle de ce que je connais, on intègre un cabinet, mais ou pas, d'ailleurs on peut s'installer, mais on a cette pression du client, finalement. Enfin, ce qui nous fait challenger, ce qui nous challenge, ce qui nous motive, c'est de satisfaire nos clients. Et cette pression-là, on la découvre véritablement dans le monde du travail, parce qu'elle n'est pas comparable avec ce qu'on peut vivre ou connaître dans ses études. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qu'il faut essayer d'anticiper, qui ne doit pas faire peur, parce que bah, tout le monde y est passé, et puis tout le monde y passe. Et tant mieux, et c'est bien, c'est l'évolution.
Et quel conseil tu donnerais justement à ces étudiants qui sont dans cette phase-là ? Et je t'écoute les oreilles grandes ouvertes, puisque j'en suis en plein dedans.
Bon, c'est de croire en soi, de se dire que c'est pas mal de se poser des questions, de se dire que c'est pas anormal de pas tout savoir, et de se dire de pas avoir peur d'aller poser des questions, de s'interroger. Faut pas avoir peur de se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'on se relève, systématiquement. Et puis de croire en soi aussi, parce que quand on arrive sur le monde du travail, on a un cursus... en tout cas dans ces cursus-là, vous avez un cursus, vous avez un diplôme qui a une valeur aussi, donc vous n'êtes pas là par hasard non plus, quoi. Donc je pense qu'il faut à la fois, alors c'est un savant mélange entre être suffisamment sûr de soi pour pas se laisser abattre et pour pas avoir un doute qui se transforme en stress, parce que ça c'est pas bon, et en même temps douter suffisamment parce que le doute apporte des questions qui apportent des réponses qui font avancer, quoi.
Donc quand tu as fini l'école d'avocat, tu as commencé ta carrière d'avocate dans un cabinet à Paris, puis subitement tu es parti travailler dans une entreprise en tant que juriste. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'au final, on peut dire que tu voulais tester de nouvelles choses sans pour autant abandonner le métier que tu exerces aujourd'hui?
Alors, ce n'était pas un choix dans la mesure où, en effet, la structure dans laquelle j'ai eu ma première collaboration a été en difficulté financière et que du coup, j'ai perdu ma collaboration, ce qui peut arriver aussi. Et pour rebondir à ce moment-là, j'ai en effet, enfin par opportunité en fait, passer une offre pour un remplacement d'entreprise, d'une juriste d'entreprise. Et je me suis dit, pourquoi pas finalement mettre à profit mon temps de recherche d'une nouvelle collaboration sur ce nouveau projet, puisqu'il cherchait quelqu'un de manière urgente et immédiate. Et donc c'est de cette façon-là que j'ai été amenée à exercer, à quitter momentanément, on va dire, la profession d'avocat pour aller travailler en entreprise. Donc c'était pas un choix voulu à la base, parce que si j'avais jamais eu ce petit incident de parcours, peut-être que j'aurais jamais saisi cette opportunité-là. Mais je regrette pas du tout, parce que je trouve que, à l'instar du projet personnel, individuel, professionnel, individuel dont on parlait tout à l'heure dans l'étude d'avocat, ça m'a ouvert aussi un peu ce champ des possibles. J'ai vu que d'autres métiers existaient, j'ai vu comment fonctionnaient les juristes d'entreprise, j'ai vu quelles attentes ils avaient de leurs avocats aussi. Donc aujourd'hui, je me dis, j'ai été à la place de mon client aussi, quelque part. Ça a été finalement très enrichissant. Donc c'est vrai que c'était un parcours, en ce qui me concerne, un peu subi, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter. Alors, il y a des formalités administratives, parce qu'on se fait au maître du barreau, etc. Ce n'est pas non plus ultra simple, je ne voudrais pas laisser croire ça, de faire une pause, entre guillemets, en tout cas dans une profession réglementée. Mais si l'opportunité se présente, je pense qu'il ne faut pas hésiter. On parle beaucoup d'interprofessionnalité aujourd'hui, on parle d'avocats en entreprise, etc., notamment pour ceux qui font du droit des affaires. Et je pense que tous ces sujets ne sont pas encore bien ficelés, on va dire, ou en tout cas suffisamment pour donner lieu à des réformes effectives. Mais je pense qu'un jeune ou moins jeune, d'ailleurs, confrère qui serait confronté à un incident de parcours, une difficulté, c'est pas un échec du tout, loin de là, de se dire, tiens, je vais aller voir ce qui se passe du côté des entreprises et de saisir une opportunité, d'aller découvrir. Je pense que c'est enrichissant. En fait, c'est ça aussi l'idée peut-être principale de mon propos, qui est un peu long. C'est de dire que finalement, c'est bien d'aller voir ailleurs. C'est pas un constat d'échec, c'est pas un aveu d'échec, que d'avoir l'esprit ouvert, quoi, finalement.
Et durant ta carrière, est-ce qu'il y a une affaire, un client ou même un procès qui t'a vraiment marqué? C'est quoi l'expérience la plus forte que t'as vécue dans ton parcours professionnel?
Y a un client qu'on oublie rarement, c'est le premier. En ce qui me concerne, sur ce client-là, le sujet n'était pas passionnant, enfin, était très technique.
Ça portait sur quoi?
Ça portait sur des droits de propriété intellectuelle et de personnages, de livres pour enfants. Et le sujet était assez technique, mais je me souviens quoi, m'être avec mes pièces, avec mes notes d'un rendez-vous client que j'avais fait avec l'associé pour lequel je travaillais. Et puis donc c'était un dossier qui partait au contentieux. Et puis d'avoir une page blanche et de me dire, qu'est-ce que je fais? Alors j'ai compris, j'ai cerné le problème, mais comment je vais faire pour écrire noir sur blanc les arguments, pour transformer les propos du client en arguments juridiques, pour vérifier ce qu'il m'a dit, si au vu des pièces c'est correct? En fait, cette découverte de la réalité du métier concrète, elle se fait avec surtout le premier client. Ce premier jour, on se retrouve, on va se dire, par où je commence,
ouais,
quoi.
Comment transformer du technique en une belle
exactement,
déclamation.
Exactement, et tout ça dans l'intérêt du client qui doit en plus être content pour payer des honoraires. Enfin, voilà, on ne va pas se mentir, c'est le nerf de la guerre aussi, on travaille pour gagner sa vie.
Et ça t'a conforté dans ton métier ou ça t'a fait peur, ça t'a repoussé un peu?
Là, ça m'a conforté, c'est grisant en fait, en même temps aussi, ce serait trop simple de savoir tout de suite ce qu'on fait, comment on le dit, et ça rejoint aussi, même aujourd'hui encore, quand on doit plaider un dossier, quand on doit rencontrer un nouveau client, on a toujours un petit stress, on a toujours une petite inquiétude. inquiétude. C'est aussi ce qui fait, alors du métier qui peut être stressant, c'est vrai parfois, mais c'est aussi ce qui fait que le métier est grisant, quoi. C'est que on est toujours en stress, on peut toujours faire mieux, on veut toujours satisfaire son client, son ego aussi d'avoir fait un travail bien fait. Donc c'est aussi ça qui rend le métier passionnant. Et encore, moi, je vais pas parler pour eux, mais je fais du droit des affaires. J'ai des amis qui sont pénalistes ou autres et qui vous diront la même chose. Alors, c'est des degrés sans doute différents, mais qui ont toujours, même après 20 plaidoiries aux assises, un truc qui les fait vibrer, qui les passionne. Et heureusement, parce que c'est pas des métiers qu'on peut faire par défaut.
Non, généralement, ça se dit souvent quand on entame une formation en droit en licence. Généralement, c'est pas un choix par défaut parce qu'on n'a aucun prérequis finalement. Il y a quasiment, je dis bien quasiment, parce qu'il y a quelques filières quand même qui le font au niveau lycée. Je pense notamment à des filières professionnelles qui font une entame au droit, mais quand on arrive, en fait, on est totalement démunis. On débarque et on fait, en fait, on connaît rien du tout au bazar. Comment on fait ?
C'est ça, c'est une découverte. Mais ce qui fait aussi peut-être que ce soit légitime d'avoir des parcours qui ne soient pas tout tracés, parce qu'on s'engage quand même initialement dans une voie qu'on ne connaît pas. Enfin, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est là aussi où c'est tout à fait légitime à un moment de se dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Quelqu'un qui fait des maths et qui fera une. Alors, je ne connais pas grand-chose au parcours, aux écoles scientifiques, mais j'imagine que quand on a une appétence pour les maths, la physique ou la chimie, on se dit pas après 3 ans d'études, ah ben non, en fait j'aime pas. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît avant, on sait où on met les pieds. En droit, c'est pas le cas. C'est là aussi où c'est important d'avoir des croisements avec d'autres formations, avec d'autres études, et c'est là aussi où c'est important et où c'est pas du tout grave de s'interroger à un moment donné, de savoir si c'est fait pour soi ou pas, quoi.
Est-ce qu'aujourd'hui, il t'arrive encore de douter de ce que tu fais ? Est-ce que tu te poses encore la question de dire, est-ce que je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie ou pas ? Est-ce que ça t'arrive de te poser cette question déjà ou...
Oui, ça m'arrive. Alors après, c'est assez marrant, mais c'est, je pense, aussi des questions qu'on va se poser à un moment où on a un dossier un peu plus difficile, où on a cru, on a super bien plaidé, puis on se prend une décision qui n'est pas celle qu'on attendait, il faut l'annoncer au client. Enfin, je pense que c'est sans doute assez humain, mais en tout cas, moi, je le ressens un peu comme ça. C'est quand il y a finalement un obstacle qu'on va se dire, est-ce que finalement... ça vaut le coup de continuer, est-ce que finalement j'ai envie de continuer ? Enfin, quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Hein, mais oui, c'est des métiers où il y a des obstacles tout le temps, parce que la vie n'est pas linéaire, et tant mieux. Je pense que c'est des questionnements qui sont légitimes et qu'il faut se poser aussi, parce qu'on ne peut pas savoir qu'on est bien là où on est si on ne s'est pas interrogé sur ce qu'il y avait autour. Donc aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre et de dire si je serai avocat toute ma vie, si je ferai du droit toute ma vie. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien.
Et ces obstacles dont tu parles, est-ce que finalement, tu en as rencontré aussi pendant les études de droit, j'en ai fait, c'est pas facile, hein, faut se le dire. Pour autant, ça t'a pas tant que ça démotivé finalement ?
Non, parce que parce qu'après, il y a une volonté d'aller au bout. C'est-à-dire qu'il y a deux raisons d'avoir des mauvaises notes. Il y a j'ai pas travaillé, et il y a j'ai rien compris, et il y a j'ai beau travailler, j'y comprends rien, donc c'est pas fait pour moi. Donc je pense qu'il faut pas se démotiver si un résultat est pas atteint. Quand on en connaît la cause, enfin quelque part. Donc soit on agit dessus et puis on rectifie et c'est pas un drame, soit on peut pas agir parce qu'on a juste pas assez bossé et puis c'est tout. Il faut l'admettre et faut l'assumer. Mais je pense que oui, ça arrive de se planter, mais ce qu'il faut regarder, c'est pourquoi. Enfin, en fait, c'est ça.
Et si c'est les trois en même temps, comment ça ?
Si c'est les trois en même temps, il faut se poser la question de savoir si on est à sa place. Mais ce qui n'est pas une mauvaise question en soi, ce qui est légitime. D'ailleurs, il faut se la poser. Je suis toujours assez étonnée de constater des confrères qui, au bout de 1 an ou 2 ans d'exercice, se disent, mais en fait, c'est pas pour moi et j'ai envie de faire autre chose. Je trouve que c'est tellement dommage parce que, alors certes, c'est des matières qui vous permettent de vous raccrocher à d'autres branches, à d'autres choses, mais cette question-là, souvent, ces gens-là, en tout cas ceux avec qui j'ai pu échanger, on sent que c'est quelque chose qui, en fait, les a pesés pendant leurs années d'études. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà, une petite idée qui leur trottait en tête depuis quelques temps, de se dire que c'était peut-être pas fait pour eux. Et finalement, c'est un jour... Ou sans doute confrontés à la réalité du monde du travail, etc. Donc souvent assez vite dans la vie professionnelle, ils vont se dire « Non mais en fait aujourd'hui j'ai la confirmation que c'est pas pour moi. » Et c'est bien, mais au plus tôt on se le dit, quelque part au mieux c'est. Donc il faut se la poser constamment, cette question.
Et toi, cette question, j'ai l'impression que tu te l'es posée aussi en 2011, l'année où tu t'es dit « Tiens, et si j'allais enseigner du droit à des étudiants en com ?» Et du coup, voilà, T'as une grosse carrière et là tu t'es dit peut-être pourquoi pas une nouvelle perspective, pourquoi ne pas enseigner? Et si je donnais des cours sur cette matière que j'adore, que je pratique, le droit, à des étudiants?
Oui, alors moi j'aime beaucoup l'enseignement, c'est vrai que je l'ai découvert qu'en 2011, j'avais pas enseigné auparavant. J'ai été sollicitée en fait par l'ISCOM pour une raison toute simple, c'est que j'avais fait mon fameux PPI, notamment en agence de publicité, donc j'avais quelques acquaintances dans le milieu de la publicité, et que l'ISCOM à Lille cherchait un intervenant pour enseigner le droit qui venait tout juste de s'inscrire officiellement au programme, donc ils n'avaient pas... J'ai remplacé personne, quelque part ils écrivaient une nouvelle page aussi avec cet enseignement en droit, et c'est vrai que j'ai découvert l'enseignement à cette occasion-là, j'ai trouvé ça hyper sympa, enfin, c'est transmettre son savoir. Alors, un peu difficile à l'ISCOM dans le sens où c'était, bon, moi, ma première expérience d'enseignement, et en plus à un public qui, par nature, n'avait pas choisi du droit. Donc, c'est vrai que c'est deux choses. Par la suite, j'ai découvert l'enseignement à des étudiants en droit, qui est encore différent parce que vous avez un public qui est intéressé.
Et ça, tu l'as fait à la Cato,
Je l'ai fait à la Cato. Donc, oui, je trouve que l'enseignement, c'est aussi retransmettre aux étudiants ce qu'on nous a transmis à nous plus tôt, et aussi transmettre l'expérience, parce que je suis pas professeur agrégé ou quoi que ce soit, donc j'interviens avec mon œil de professionnel, et je pense que c'est intéressant d'apporter, en plus de la bonne formation théorique que les étudiants vont avoir avec leur professeur titulaire, de leur apporter en plus ce que nous on peut leur apporter en tant que professionnel, c'est cette vision pratico-pratique du métier, pour simplifier un petit peu, pour adoucir un petit peu, si je puis dire, ce passage dont on parlait tout à l'heure, de la vie universitaire à la vie professionnelle.
Je suis entièrement d'accord avec toi, parce que le fait d'avoir des enseignants qui sont finalement des professionnels, qui n'ont pas forcément fait une formation pour apprendre à enseigner, moi je l'ai découvert que très tard, je l'ai découvert quand j'étais du coup en master, et je trouve qu'il y a une plus-value. Et d'un côté, c'est rassurant aussi.
Les deux sont absolument nécessaires. C'est-à-dire qu'il faut cumuler une très bonne formation théorique. Et ça, il n'y a que des professeurs titulaires, il n'y a que des cours magistraux de fond qui peuvent enseigner ça. Et il faut absolument ajouter à ça, enfin, comme tu le disais, c'est une plus-value, donc ça vient en plus de quelque chose. Il faut absolument ajouter cet aspect pratique. D'ailleurs, on a souvent d'excellents retours des étudiants qui sont super contents de voir, en fait, ou d'entrevoir l'aspect concret de ce qu'ils sont en train d'apprendre, en fait. Et c'est vrai que dans les études de droit, qui sont des études théoriques, avec beaucoup de textes, avec beaucoup d'écrits, beaucoup de choses à apprendre par cœur, et des choses qui peuvent paraître un peu futile, mais en fait quand on se rend compte que, je vais prendre un exemple, on parlait de droit administratif tout à l'heure, quand on apprend par cœur qu'il faut faire des dépôts de permis, etc., bah, c'est bien, mais ça peut être un peu rébarbatif. Quand on se rend compte que concrètement, bah, on s'expose à des amendes, qu'il faut faire telle ou telle démarche, qu'en fait c'est pas si compliqué, que si on les fait pas, on s'expose à des amendes, à des pénalités, à devoir détruire une construction qu'on a construite et qu'on a financée, et que pour un client qui vient vous consulter en disant, maître, j'ai construit une extension de ma maison, puis aujourd'hui j'ai une injonction de la détruire, j'y perdrai une fortune. Bah, ça, c'est concret, et donc on appréhende beaucoup mieux l'aspect purement théorique et la nécessité de maîtriser ces règles théoriques. On voit leur aspect totalement concret. Quoi,
dans plutôt que d'essayer de comprendre la continuité du service public grâce à la décision de justice de Gaz de Déville-Léron du Conseil d'État de 1902.
Par exemple, entre autres, des nombreux arrêts du droit administratif.
Parce que ça fait peur. Hein, les arrêts de droit administratif, il y en a plein qui sont en panique totale dessus.
Ouais, mais alors c'est marrant parce que ça c'est un sujet, moi j'ai encore beaucoup d'amis qui sont qui ont fait des études de droit, pour certains qui ont bifurqué d'ailleurs, mais même ceux qui ont bifurqué depuis longtemps, qui font complètement autre chose, ils se souviennent souvent de ça, des arrêts du droit administratif, et ils sont tous capables d'en citer un ou deux.
Bah, tu connais le plus connu.
Morsan-sur-Orge.
Ah, 1995.
Voilà. Tout le monde le sort. Ouais,
le fameux lancer de nains.
C'est ça, exactement.
Comme donc, quoi aussi dans le droit on peut s'amuser. Hein.
Bah, il y a aussi des exemples en effet marrants. Ouais.
Et il y a un énorme cliché, gros débat sur cette matière qui est le droit, et que tous les étudiants qui ne sont pas en droit posent à des étudiants qui sont en droit. C'est faut vraiment apprendre tout par cœur.
Non, il faut pas apprendre tout par cœur. Et la preuve en est, c'est que pour la plupart des examens, Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans les premières années, mais pour la plupart des examens et des concours, vous avez le droit de consulter les codes, vous avez le droit de consulter les règles de droit. Donc, il ne faut pas les connaître par cœur. Ce qu'il faut, c'est avoir les bons réflexes. Alors, à un moment donné, il faut quand même les ancrer dans sa tête. Donc, il y a forcément des choses à apprendre. Mais on ne demande pas à un étudiant en droit de savoir réciter par cœur toutes les pages de son cours de droit civil sur la responsabilité civile contractuelle. On va lui demander d'avoir le réflexe de connaître les deux, trois conditions principales de la responsabilité. On va lui demander d'avoir le réflexe, si on lui parle de contrat, de se dire que, bah, attention, est-ce qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix ? Après, ça, c'est important. C'est ces réflexes-là qui sont importants parce que c'est ceux-là aussi qui vous servent ensuite dans la vie professionnelle. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout sur tout. Par contre, j'espère savoir identifier les problèmes et aller chercher correctement pour trouver la solution, que je ne connais pas, toujours. Avec l'expérience, il y a des sujets qui sont récurrents et on a les réponses, mais c'est quand même très rare, je pense même que ça n'arrive jamais, de devoir rédiger des conclusions dans une procédure ou une consultation pour un client et de ne pas avoir à consulter un ouvrage. Jamais ça n'arrive.
Qu'est-ce qui t'a motivé à enseigner ? Est-ce que tes années à la Cato, elles t'ont aussi donné ce goût de la transmission ? Quand t'as vu des chargés de TD, des maîtres de conférences donner des cours, tu t'es dit, tiens, ce serait pas mal, j'aimerais bien le faire aussi un jour.
Ouais, j'ai toujours trouvé ça... Alors, il y a des professeurs qui vous marquent plus que d'autres. On parlait de Monsieur Turc tout à l'heure, par exemple. Mais j'ai toujours trouvé ça assez fascinant, le fait de vouloir transmettre ce qu'on sait en fait aux autres sans retour en fait quelque part, enfin c'est de se dire on trouve un plaisir personnel à apprendre et à transmettre ce qu'on sait aux étudiants, et c'est grâce à tous ces profs que tous les étudiants qui sont comme moi aujourd'hui actifs sur le monde du travail sont arrivés là où ils sont. Enfin, ça tombe pas, c'est pas de la science infuse, c'est, on peut lire le code civil dans tous les sens. Si un jour il y a pas un prof qui vient vous dire attention là il faut l'interpréter comme ça, bah c'est pas de la science infuse,
c'est
quoi.
c'est pas inné, ouais.
C'est pas inné.
Le retour, finalement, tu vois ce que tu dis, sans retour, mais le retour, c'est quand l'étudiant réussit son examen et qu'il passe à l'année supérieure.
Oui,
c'est un bon retour, ça.
C'est un bon retour. La réussite universitaire, elle fait évidemment plaisir à l'enseignant. Et je pense, j'irais même au-delà, en disant que retrouver des anciens étudiants sur le marché du travail épanouis dans leur métier, c'est aussi une belle récompense, quoi. C'est pour ça qu'on enseigne. Enfin, moi, si c'est enseigné pour qu'on écrive ce qu'on dit sur un papier, qu'on mette dans un tiroir et qu'on s'en serve jamais, ça n'a pas d'intérêt. Ou en tout cas, il faudrait que je me pose des questions. Mais on le fait pour donner du bagage. Donc je pense que oui, la réussite universitaire et puis plus loin, la réussite professionnelle de ces étudiants, c'est sans doute la plus belle des récompenses.
Tu donnes toujours des cours à la Cato ?
J'en donne encore. Alors, j'ai eu une charge de travail très importante cette année. Du coup, j'ai aussi, d'ailleurs c'est marrant dans cette notion de transmission, mais j'ai aussi invité mes collaborateurs à prendre part aux cours que je donnais. Et donc, ils ont assuré cette année beaucoup d'heures de cours à la Cato.
Donc
à ma place.
Donc finalement, toi, tu transmets aux étudiants, mais tu transmets aussi à tes collaborateurs
exactement.
Ce goût de l'enseignement.
Je suis en train de... C'était au moment où je parle, je suis en train de me dire ça, c'est une double transmission. C'est assez intéressant, comme ça, j'avais jamais vu ça sous cet angle, mais parce que c'est important, c'est-à-dire que même moi, mes collaborateurs aujourd'hui, de favoriser le fait qu'ils puissent eux-mêmes enseigner, c'est parce que moi, j'estime que personnellement, j'en ai retiré quelque chose d'intéressant, et je trouve ça sympa qu'eux le fassent aussi.
Quel conseil, et là ça mettra un point final à ce magnifique échange, quel conseil donnerais-tu à des futurs étudiants en droit ou même à des étudiants tout court, que ce soit dans la vie sociale, professionnelle ou même familiale ? C'est quoi ton conseil ?
Bah, amusez-vous. C'est hyper important, on parle de sujets sérieux, des études, du métier, mais il faut y prendre du plaisir, il faut s'amuser, que ce soit alors au bon moment, on s'entend bien, notamment dans les études, mais oui, amusez-vous, il faut prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, donc on ne fait pas des études pour faire des études, on fait des études parce que derrière, ça va nous donner un diplôme qui va nous permettre d'accéder à un métier qui, a priori, nous plaît. Donc si ça ne vous plaît pas, bah, réfléchissez et changez de voie, c'est pas mal. Mais amusez-vous toujours en parallèle, prenez du plaisir à ce que vous faites.
Merci beaucoup Ondine d'avoir été avec moi dans cet épisode d'Altitude. J'espère que tu as passé un bon moment.
Bah oui, merci à toi, c'était fort agréable. C'est toujours un plaisir de donner un peu son sentiment. J'espère que ça pourra aider les étudiants.
Altitude est disponible sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et un nouvel invité. Merci pour vos écoutes et vos retours, continuez à le faire. Ça me permet de m'améliorer et d'évoluer avec et pour vous dans ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager un maximum autour de vous et à me laisser un petit message sur Apple Podcasts, ça fait toujours plaisir. Altitude est un podcast réalisé grâce à l'Université catholique de Lille. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous !